fumer.
Ah, ici aussi. Ils te vendent des clopes, tu peux pas les fumer, quoi.
C'est un monde qui bat en couille.
Cannabis Circus.
Tous les jours, on va être là. Et la drogue, on va l'éradiquer. Vous le vouliez ou pas? Alors vous, les jeunes, vous avez intérêt à passer le message. C'est vous. Vous, consommateurs.
C'est shit que ça sent.
Cannabis Circus.
Derrière chaque joint, il y a un lien avec une activité mafieuse ou terroriste. Et il faut que chacun en ait conscience.
Cannabis Circus.
Radio Canu.
Cannabis Circus, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Eh bien, il y a Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Voilà, comme tous les lundis soirs, le Cirque Lyon, le collectif d'information et de recherche cannabique lyonnais, qui vous présente donc cette émission, voilà, comme tous les lundis, une émission, une revue de presse, l'actualité sur le cannabis, bien sûr, mais aussi sur d'autres substances psychoactives, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas que le cannabis, on est bien d'accord. Même si cette semaine, on va quand même pas mal en parler, surtout avec ce qui s'est passé à Saint-Ouen, toute la semaine, avec toutes ces déclarations, ces emportements, sur Saint-Ouen, ce supermarché du trafic de cannabis. Alors on va voir un peu tout ça, on va un peu retracer, ou plutôt traverser, excusez-moi, l'actualité journalistique de cette dernière semaine, avec différents articles qui en ont parlé, d'autres plutôt intéressants et d'autres carrément pas du tout intéressants. Alors j'ai fait une petite sélection pour cette semaine, j'ai essayé de choisir les plus intéressants. On ne parlera pas que de ça, on parlera peut-être un peu de chanvre, un matériau 100% chanvre qui peut être un isolant, un super isolant. On va voir un petit peu tout ça, de quoi il s'agit. On ira peut-être faire un petit tour aussi en Tunisie, on verra ce qui se passe en Colombie où le gouvernement annonce la suspension de la fumigation des champs de coca. On verra pourquoi et on verra de quel produit il s'agissait. Voilà, on reparlera sans doute un peu. Je pense que ça fera un peu partie de toutes nos émissions durant l'année 2015 sur cette guerre aux drogues, guerre raciale, une guerre discriminatoire. On en a déjà parlé la semaine dernière, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, même si on ne traite pas les articles qui en cause du début à la fin. Moi, on en parle quand même toujours un peu dans nos revues de presse parce que c'est d'actualité, et encore une fois, avec ce qui se passe à Saint-Ouen, ce qui s'est passé la semaine dernière, malheureusement, ça risque de déboucher un peu sur le même genre de problème. Donc, on verra ça. Alors, avant de continuer l'émission, pardon, et de me passer un peu de la musique, je vous informe ce soir que j'ai un petit souci. Je suis tout seul à la technique. Je viens de constater qu'une seule platine CD sur les deux fonctionnait. Je n'ai que des CD ce soir, je n'ai pas de clé USB, je n'ai pas de mini-disque. Du coup, pour vous passer de la musique, ça va être un peu sportif. Là, je suis en train d'enlever le premier CD où il y avait le générique pour mettre un autre CD. Donc voilà, ça va être un peu du bricolage, mais on devrait quand même arriver à écouter un peu de musique et surtout à faire l'émission. Il n'y a pas de raison. Voilà, alors, attendez, je vais vous trouver un petit morceau sympa. Enfin, du moins, j'essaye un petit morceau du premier album d'Ezekiel, un groupe de Tours, je crois bien, qui fait de l'électro-dub, me semble-t-il. Et on va commencer par s'écouter un petit morceau qui devrait nous réveiller tous et toutes. Jazz hardcore. Voilà, à tout de suite après ce petit morceau de musique. We'll be right back. Allez, on retourne à l'actu après ce petit morceau d'Ezekiel tiré de leur tout premier album Handle With Care. Bien, bien, bien. Alors maintenant, on va s'intéresser un peu à ce qui s'est passé la semaine dernière, notamment en France, à Saint-Ouen, plus particulièrement, plus précisément, dans la très proche banlieue parisienne. Si vous suivez un peu le sujet de l'usage de cannabis et l'usage de drogue en général, peut-être vous êtes-vous rendu compte que la semaine dernière, on n'a pas arrêté de parler de Saint-Ouen, avec des déclarations toutes plus ou moins fracassantes les unes que les autres. En particulier celle faite par Bernard Cazeneuve, mais il n'a pas été le seul. On a également entendu différents membres de l'opposition s'exprimer sur ce sujet et critiquer justement les positions soi-disant laxistes et permissives du gouvernement. Alors, il y en a un qui est quand même assez fort là-dedans, c'est Bruno Beschiza, un des porte-parole de l'UMP, qui, dans le communiqué de presse qui était présent sur le site de l'UMP, expliquait que si on en était là aujourd'hui, qu'il y avait si peu de pression sur les consommateurs de cannabis, et s'il y avait eu un trafic d'une telle ampleur, eh bien, c'était pas étonnant. C'était notamment dû à la position politique du gouvernement sur la question du cannabis et des drogues, et qu'à partir du moment où on fait tout pour ouvrir des salles de consommation à moindre risque, alors appelées salles de shoot l'UMP et Bruno Beschiza, à partir du moment où on facilite, on fait tout pour qu'il y ait des salles de shoot qui s'ouvrent, il ne faut pas s'étonner après si effectivement il y a du trafic dans les quartiers et qu'il y a un lien de cause à effet immédiat selon M. Beschiza et un certain nombre de représentants de l'UMP. Donc c'est assez extraordinaire. En tout cas, eux, ils voient le lien. Plus de consommateurs de cannabis, du trafic partout, c'est parce qu'on lance un mauvais signal à la population et à la jeunesse sur le fait qu'on veut ouvrir des salles de drogue. Voilà, un peu le raisonnement carrément simpliste et pas très malin, hein, on peut le dire quand même, de M. Beschiza. Quand ça vient de l'UMP, on n'est pas très surprenant. Après, c'est au niveau du PS que c'est plus ennuyeux. Alors en fait, pourquoi, d'où ça sort cette histoire de Saint-Ouen? Ça vient du fait qu'il y a eu des petits soucis dans cette ville de Saint-Ouen, apparemment il y a eu des petites échauffourées, alors pas la semaine dernière mais la semaine d'avant, il y avait eu des coups de feu à fin avril, à l'arme automatique qui avait été tirée. Il y avait quand même eu 3 blessés. Et les blessés étaient apparemment des acheteurs présumés. Voilà. Donc, le maire de Saint-Ouen s'est pointé à la place Beauvau au ministère de l'Intérieur et l'a ouvert, en fait, a gueulé, en disant « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» et tout. « C'est pas normal qu'il se passe ça dans ma ville. » Un certain nombre de politiques, dont Bernard Cazeneuve, se sont exprimés très durement à ce sujet. Et M. Cazeneuve, tout de suite, a dit qu'il allait répondre et mettre en place des mesures, des moyens particulièrement puissants pour lutter contre l'expansion du trafic. Voilà, on ne sait pas trop de quels moyens puissants il s'agit, puisque plus tard dans la semaine, ce même Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, a annoncé qu'il y allait avoir 50 policiers, 50 CRS supplémentaires qui allaient être déplacés. Un peu plus tard, 34 policiers et 6 douaniers également. Alors, il y a eu effectivement des douaniers sur place. Après, dans les articles, alors, là, il y a l'article de Libération du 14 mai, mais il y a eu beaucoup d'articles, en fait, toute la semaine. J'ai pas pris tous les articles pour en parler ce soir, parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Donc là, il y a 2 articles de Libération du même jour, écrits par 2 journalistes différents. Métro en a également parlé, bien entendu. Le Figaro, ça ne nous surprend pas non plus. Également France TV Info, qui a fait un article pas mal avec une interview d'Esther Benbassa. RTL également, BFM TV, beaucoup d'articles aussi. TV5 Monde, des articles plutôt très bons d'ailleurs dans TV5 Monde. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois qu'il y avait encore un autre article. C'est à peu près tout. Donc dans tous ces articles, bon, on avait les déclarations des politiques, bien sûr, et puis des réactions également des habitants et des habitantes de Saint-Ouen. Ainsi, dans Libération du 14 mai, une Sidonie, une dame qui s'appelle Sidonie, qui s'exprime et qui dit que cette réaction, voilà, de vouloir envoyer plus de policiers dans le quartier, ben, c'est pas une réponse, c'est une réaction, justement, uniquement. Et qui rajoute, on a affaire à un gouvernement qui fait une opération de com, mais ne réagit pas sur les problèmes de base. Le symptôme, c'est la drogue, mais la maladie, c'est notre jeunesse qui n'est pas accompagnée. Une autre habitante, Maïmouna, qui dit, le ministre a pris cette décision sans nous concerter. Voilà, un peu. Et elle finit par ajouter, de toute façon, on va le rencontrer, le ministre de l'Intérieur, et il a besoin de nous. Il a besoin de nous, en effet. Et on a besoin des habitants pour travailler sur ces quartiers, bien évidemment, quoi. Alors, France Inter également a interviewé une responsable, une des représentantes du collectif Saint-Ouen Debout, la semaine dernière, au journal de 13h. Et le journaliste de France Inter, très étonné, demandait à la représentante de Saint-Ouen Debout, lui disait, mais si je comprends bien, vous ne réclamez pas plus de répression et plus de moyens de police supplémentaires. Et cette représentante de Saint-Ouen Debout a répondu un peu la même chose, là, ce que je viens de vous dire, en disant, bah non, c'est pas ça la solution. On a besoin de solutions éducatives, c'est un problème social. Et non, on ne réclame pas plus de policiers. Et je pense que l'une des raisons qui fait qu'on répond comme ça, c'est aussi parce que des policiers dans ces quartiers, on en connaît, on en a déjà vu pendant depuis des années, et que non seulement ça ne fait pas cesser le problème, mais ça participe très largement de la criminalisation de cette jeunesse qui vit dans ces quartiers, qui, elle, ne passe pas souvent, ne passe pas à travers les gouttes lorsqu'il y a des arrestations et des mises en garde à vue et des jugements au tribunal. On sait très bien que c'est la jeunesse de ces quartiers qui est particulièrement ciblée par les forces de police lorsqu'il y a une lutte contre la drogue qui est menée, notamment une lutte contre le cannabis. On le sait depuis au moins 40 ans. Donc forcément, les habitants des quartiers sont pas favorables à l'arrivée de moyens de police supplémentaires dans la ville. Donc voilà, c'était un peu dans le premier article de Libération. Dans l'autre article, là, on nous raconte un peu comment ça se passe. Ah, comment ça se passe à Saint-Ouen, des files d'attente, des gens qui viennent, qui rencontrent brièvement d'autres jeunes, qui s'éloignent un peu plus loin et qui reviennent et qui s'en vont dans une direction opposée, chacun de leur côté. Et ça, bon, forcément, ça ne plaît pas. Bernard Cazeneuve disait donc on ne peut pas accepter que des habitants des quartiers plus favorisés viennent tranquillement s'approvisionner en produits prohibés, perturbant la vie locale. Et oui, parce qu'il semblerait que ce sont plutôt des jeunes gens, plutôt venant de quartiers favorisés, de milieux favorisés, qui viennent s'approvisionner à Saint-Ouen ou ailleurs d'ailleurs, parce que ce n'est pas que le problème de Saint-Ouen. Ce genre de constat peut être fait dans la périphérie lyonnaise, la périphérie marseillaise, on le sait très bien, la périphérie de Bordeaux, de Toulouse, de Lille, de Brest, de Nantes, de Rennes, bref, d'à peu près toutes les grosses villes de France, Strasbourg également. Alors là, par contre, ce qui était intéressant, c'est que quand même dans ces articles, on voyait un peu en filigrane se dessiner un portrait robot du consommateur, donc quelqu'un de plutôt aisé socialement, qui vient s'approvisionner dans les quartiers. Monsieur Cazeneuve avait dit, et pour une fois, je suis pas tout à fait en désaccord avec lui, il faut aussi cibler les consommateurs. Et je suis d'accord, si effectivement les consommateurs ciblés sont des consommateurs venant de quartiers favorisés, de milieux favorisés, je suis d'accord, il faut aussi les punir. Il n'y a pas de raison que la pénalisation du cannabis et la guerre aux drogues ne s'appliquent qu'à des pauvres et à des gens, à des jeunes issus de ce qu'on appelle des minorités ethniques, alors que ce sont des Français. Et tous les Français doivent être concernés par la répression. Et ça sera génial d'ailleurs, parce que j'exagère, hein, je suis ironique bien sûr. Si on se met à taper sur les classes moyennes qui vont s'approvisionner en cannabis, peut-être on peut les mobiliser et peut-être que à terme les choses changeront. C'est pas non plus par hasard aux États-Unis que ça a changé aussi. C'est parce que à un moment les classes moyennes se sont mobilisées et ont voulu que la loi change sur le cannabis. Peut-être est-ce dû pas uniquement, mais à la répression et au fait que des jeunes issus de catégories sociales plutôt favorisées ont aussi, alors c'est exceptionnel, mais ont aussi été arrêtés et ont été emprisonnés. Voilà. Plus loin aussi, d'un autre article, alors là c'est un peu l'avis de la police. Que pense la police ? C'était dans Metro News du 14 mai. Les mesures, alors que pensent les CRS, les 50 CRS supplémentaires mobilisés, des mesures proposées par Bernard Cazeneuve. Bon, en gros, ils disent que si on fait que ça, ça ne va pas suffire à grand chose. Il faut mener une action selon eux de long terme. On peut pas, voilà, sinon ça va pas être, ça va pas être efficace. Et puis il faut mobiliser un peu tout le monde. C'est pour ça qu'il y avait aussi la douane. Il réclame également plus de moyens humains, un renforcement des unités locales sur place et pas l'adjonction de policiers supplémentaires qui viennent en renfort. Et contrairement à ce que disait Cazeneuve, qui voulait absolument cibler les consommateurs, la police dit qu'il faut d'abord lutter prioritairement contre les dealers et mener une politique pénale. Le trafic de drogue est basé sur le calcul coût-bénéfice. À partir du moment où vous savez que le bénéfice est plus important que le risque encouru, le business continuera. Voilà, parce que ce que disent les policiers depuis toujours d'ailleurs. On interpelle des dealers que l'on retrouve quelques semaines après à la même place. Certains ont un vrai sentiment d'impunité. Toutes les mesures qui permettent de lutter contre le trafic sont les bienvenues, résume un autre policier. Mais il faut les pérenniser et sérieusement réfléchir à une politique nationale. Car si les projecteurs sont aujourd'hui sur Saint-Ouen, il existe cette même problématique dans de nombreuses autres villes de France. Voilà. Donc la douane s'est pointée, il y a eu quand même des arrestations et 49 personnes ont été arrêtées et ont payé une somme de 300 euros. Parmi les 49 personnes interpellées, il y avait 4 mineurs qui ont été remis à leurs parents. Deux autres ont été placés en garde à vue parce qu'ils ont refusé de transiger et n'ont pas voulu payer l'amende. Et d'autres qui n'avaient pas d'argent en liquide ont été accompagnés aux distributeurs par les forces de police pour payer leur amende de 300 euros. Voilà. Ce qu'on pouvait lire dans Le Figaro, ça c'était dans lefigaro.fr. Qu'est-ce qu'on pouvait lire d'autre intéressant dans Le Figaro ? Un autre point de vue d'un policier, il disait, voilà, pour faire tomber les équipes de trafiquants, les effectifs de police sont largement insuffisants. Pour tous, les moyens ne sont pas à la hauteur de cette guerre qui doit être aujourd'hui menée avant tout contre les dealers, encore une fois. Voilà un peu ce qu'on pouvait lire dans Le Figaro. Pareil dans francetv.info, s'en prendre aux consommateurs est la plus mauvaise des solutions. Ça, c'est la réponse d'Esther Benbassa dans France TV Info, qui répond aux journalistes de France TV. Voilà, et quand on lui demande est-ce que vous approuvez l'intervention policière massive décidée par Cazeneuve, ministre de l'Intérieur à Saint-Ouen, Esther Benbassa répond bah non, le ministre de l'Intérieur souhaite veiller à la sécurité des habitants de Saint-Ouen, ça c'est normal, on peut le comprendre. Mais ne mener qu'une politique répressive n'aboutira à rien. Bernard Cazeneuve doit regarder les statistiques en face. Notre législation est l'une des plus sévères d'Europe envers les consommateurs de cannabis et pourtant la consommation ne cesse d'augmenter dans notre pays. Augmenter la présence policière à Saint-Ouen ou généraliser la vidéosurveillance est une fausse solution qui ne fera que déplacer le problème du trafic ailleurs et n'asséchera pas les mafias. Les États-Unis, pays pourtant bien plus conservateur que le nôtre, l'ont bien compris. Certains États comme le Colorado et l'Oregon ont décidé de faire preuve de pragmatisme et de se tourner vers une légalisation contrôlée du cannabis avec des premiers résultats très positifs. Et donc cibler les consommateurs n'est pas, selon vous, une solution fiable ? Eh bien non, c'est la plus mauvaise des solutions, répond Madame Benbassa. Ils continueront à s'approvisionner ailleurs et prendront toujours les mêmes risques. Il faut que l'État encadre la consommation. Certains consommateurs ont un usage problématique du cannabis et ont besoin d'un vrai suivi. Les adolescents doivent être protégés de l'accès à ce produit pour leur éviter des problèmes sanitaires. Et d'autres ont un simple usage récréatif qui n'est pas problématique. Et à quoi ressemblerait donc l'encadrement que vous appelez de vos voeux ? Alors Madame Benbassa répond, voilà, une légalisation contrôlée. Si nous légalisons la seule consommation, l'État ferait des dizaines de millions d'euros d'économies rien que sur les procédures judiciaires et le désengorgement des tribunaux.
S'il contrôlait la production et la vente dans des lieux spécialisés, il pourrait assécher les réseaux criminels, atteindre 2 milliards d'euros de recettes fiscales par an, selon, Mme Benbassa reprend, les conclusions de l'estimation du think tank Terra Nova qui avait été publiée au mois de décembre. Et Mme Benbassa d'ajouter qu'au Colorado, cet argent sert à rénover les écoles et à alléger la pression fiscale des contribuables. Les revenus qui pourraient être tirés d'une légalisation en France pourraient en outre être investis dans la prévention et des milliers d'emplois pourraient être créés. Hélas, répète-t-elle, notre gouvernement continue à répéter les mêmes erreurs que la droite dans ce domaine. Que la droite et que le PS, que la droite, depuis 40 ans, c'est pareil. Lorsque j'ai déposé une proposition de loi en ce sens au Sénat en 2014, la ministre de la Santé ne m'a même pas répondu. Elle parle de Marisol Touraine, alors que ce sujet la concerne directement. À la place, c'est la secrétaire d'État chargée des droits des femmes qui est intervenue. Cela montre bien à quel point le gouvernement ne prend pas ce sujet au sérieux. C'est dommage que Mme Benbassa n'ait pas pensé à dire à Mme la secrétaire d'État des droits des femmes que la légalisation au Colorado et dans l'État de Washington avait déjà permis de faire baisser les violences conjugales. C'est dommage, mais bon, elle ne le savait peut-être pas à l'époque. Un autre point de vue un peu dissonant contrairement par rapport à ceux que nous avons entendus dans la classe politique dans son ensemble général. Je ne vous parle même pas des déclarations de Samia Ghali qui continue à vouloir envoyer l'armée dans les quartiers pour lutter contre la drogue. Samia Ghali du PS, du PS de Marseille. C'est un autre point de vue, une autre réaction à contre-courant. C'est Nathalie Arthaud, porte-parole de Lutte ouvrière, qui déplore les discours similaires des ministres de l'Intérieur et d'autres qui se succèdent. Donc elle dit que ce n'est pas la solution de s'en prendre aux consommateurs. Tous les ministres de l'Intérieur se succèdent, dit-elle, et promettent qu'ils vont prendre le problème à bras-le-corps. Avec Nicolas Sarkozy, on avait déjà eu les mêmes descentes de Robocop. Et ça ne marche pas. La répression ne marche pas. Une situation qui lui fait considérer à Mme Arthaud que la question de la légalisation, notamment du cannabis, ne doit pas être exclue. Même si Mme Arthaud est une farouche militante anti-drogue qui estime que la jeunesse a mieux à faire que de chercher des produits artificiels. Sauf que Mme Arthaud, c'est une question sociale, une question d'emploi, la légalisation. Ce n'est pas qu'une question de jeunes qui cherchent à. Qui s'intéressent à des paradis artificiels. D'ailleurs, le chanvre ne sert pas qu'à ça. Encore une fois, on réduit tout là-dessus. C'est bien dommage. Et Stéphane Gatignon, également maire Europe Écologie des Verts de Sevran, sur le site internet de RTL.fr, s'est exprimé et on connaît un peu les points de vue de Stéphane Gatignon. Qui, il y a 4 ans maintenant, avec un policier, Serge Supersac, avait publié un ouvrage dans lequel il disait qu'il fallait légaliser le cannabis. Donc, Monsieur Gatignon reste fidèle à cette idée. Le cannabis légalisé doit être encadré pour les adultes, pour être géré par l'État. Il était opposé sur RTL à Bruno Béchiza, là, dont je vous parlais, qui était contre la légalisation, bien entendu, que ce n'est pas une mesure... qu'il faut lutter contre la toxicomanie et qu'il ne faut absolument pas baisser les bras face à des produits qui ne sont pas neutres pour nos enfants, dit-il. Certes, le cannabis n'est pas neutre, l'alcool et le tabac tuent 90 000 personnes par an. Mais bon, ça, c'est, je ne sais pas si c'est neutre pour lui, peut-être pas. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait lire d'essentiel dans la presse, entendre à la radio... voir à la télé éventuellement. Je vous avoue que c'est très douloureux pour moi de regarder les journaux télévisés le soir sur France 2 ou sur TF1. Je ne l'ai pas fait. Ça m'arrive des fois de tomber dessus par hasard, mais là, je n'y suis pas allé avec tout ce qu'on a déjà entendu à la radio, ce qu'on a lu dans la presse. En tout cas, à part Stéphane Gatignon, Esther Benbassa et Mme Arthaud de Lutte ouvrière, on a je dirais pratiquement une seule pensée qui est de persister à lutter contre la drogue et à persister dans la guerre à la drogue, même si on sait que ça ne marche pas et que ça produit des effets contre-productifs, voire néfastes au niveau social, sociétal, judiciaire. Voilà. Eh bien, on va s'écouter un peu de musique maintenant et un petit Bob Marley. Bob Marley, ça faisait longtemps. À tout de suite.
Je vois qu'on essaie de m'appeler au téléphone, alors c'est possible de nous appeler, d'appeler à Radio Canu au 04 78 39 18 15. Sauf que quand on est prêt à reprendre l'antenne et tout, c'est plus compliqué. En plus, je suis tout seul ce soir, donc je ne peux pas faire l'émission, passer de la musique et répondre au téléphone tout seul. Je vous prie de m'excuser. Il y aura encore une prochaine coupure musicale d'ici une quinzaine, vingtaine de minutes. Peut-être à ce moment-là, l'auditeur qui a essayé de nous appeler peut réessayer et je pourrai lui répondre. Je m'excuse auprès de lui. Avant de continuer notre revue de presse, eh bien, on va profiter pour faire un petit rappel un peu de l'actualité du cirque. Alors avant le 18 juin, l'appel du 18 juin, le mythique appel du 18 juin qui se tiendra encore cette année à Lyon, au Parc des Berges. Le Parc des Berges, c'est Lyon 7e, c'est à côté de la Altony Garnier. Il y a un arrêt de métro juste à côté, un arrêt de tram, pardon, juste à côté, qui est l'arrêt Tony Garnier de la ligne T1. Et c'est un arrêt qui est de l'autre côté du nouveau pont Raymond Barre, en fait, côté Gerland. Et l'arrêt de tram, ça donne carrément dans le parc, en fait, dans le Parc des Berges, à l'endroit où nous allons organiser l'appel du 18 juin. Il y aura déjà ça, donc le jeudi 18 juin à partir de 18h, comme tous les ans, encore une fois, voilà. Mais avant le 18 juin, si vous êtes intéressé par le dub, le reggae et le sound system, il y aura une soirée Breda Sound System à la salle des fêtes de Caluire vendredi 22 mai à partir de 22h. Si vous êtes membre de l'association, ça ne vous coûtera rien, ce sera gratuit. Et si vous n'êtes pas membre, il faudra quitter votre inscription à l'association qui gère ces soirées et ce sera 2 euros. Et puis c'est tout. Voilà, 2 euros l'entrée si vous n'êtes pas membre, gratuit si vous êtes déjà membre. Le cirque tiendra un stand à l'occasion de cette soirée à la salle des fêtes de Caluire. Alors par contre, là, je ne vous cache pas que j'ai oublié l'arrêt du bus ni le numéro. C'est un bus numéro C, je ne sais pas comment. C'est pas très dur à trouver. Il devrait faire beau, donc on tiendra un stand en extérieur, ça devrait être sympa.
Donc, nous vous attendons nombreux et nombreux pour venir participer à cette soirée Dope Sound System avec ce vendredi. Ce sera un peu la nouveauté, c'est que Breda Sound aura un sound system complet, basse, aiguë, médium, avec les amplis et tout, et ça devrait bien marcher. Donc voilà, on vous attend nombreux et nombreux, vendredi 22 mai à partir de 22h, salle des fêtes de Caluire, pour une soirée Breda Sound System, une soirée sound system, voilà. Ça va être sympa. Donc on va continuer notre revue de presse. Alors par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière à Saint-Ouen, c'est terminé, mais c'est pas complètement terminé. On a encore quelques toutes petites infos à voir. Notamment cet article dont je vous parlais dans TV5 Monde. Un article assez complet qui fait un peu le tour des législations en Europe, un peu comme ce qu'avait fait Europe 1 la semaine dernière, je crois bien. Donc l'article s'intitule Cannabis, répression ou légalisation, point d'interrogation. Alors que la France persiste dans une approche répressive pour lutter contre le cannabis, d'autres pays font évoluer leur législation en faveur de l'usage des drogues douces pour endiguer la violence, les trafics et contenir la consommation. Ah ah, c'est bien, c'est assez bien tourné, je dirais. Donc, ça commence comme ça. Mercredi 13 mai, une cinquantaine d'agents des compagnies républicaines de sécurité est envoyée à Saint-Ouen, banlieue nord-parisienne, par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. Objectif, lutter contre les trafics et la consommation de cannabis. Les habitants ne supportent plus la présence des trafiquants et de leurs clients qui squattent les rues, instaurent une ambiance pesante et d'insécurité. La question du commerce de la drogue n'est pas nouvelle et la réponse du gouvernement français, encore moins. Ben oui, c'est sûr, on fait toujours les mêmes. On applique toujours les mêmes recettes aux mêmes mots, toujours plus de la même chose. Ben forcément, ça produit toujours plus de choses pas terribles, voilà, comme d'habitude. Donc voici des décennies que sont appliquées des politiques répressives pour endiguer le trafic et l'usage de drogue, et les résultats sont inexistants, voire improductifs. Le coût financier du tout répressif est élevé, socialement problématique. Est élevé, socialement problématique, pardon, et de plus en plus inquiétant d'un point de vue sanitaire. En fin de compte, en France, une part grandissante de la population use de stupéfiants sans s'inquiéter des risques de santé ou judiciaires qu'ils encourent. La jeunesse est particulièrement touchée, aucune solution politique au problème n'est envisagée, autre que la peur du gendarme qui reste inefficace. Non seulement inefficace, et en plus, il y a quand même des gendarmes qui font des formations anti-drogue dans les collèges. Et c'est aussi super inefficace, et ça fait même pas peur aux jeunes en plus, c'est encore pire. Donc dans cet article de TV5 Monde, on nous parle de ce rapport parlementaire rendu par la socialiste Anne-Yvonne Le Dain en novembre dernier, et qui soulignait déjà justement les contradictions et l'immobilisme de la politique française face à la consommation de drogue. Un tiers des Français de 15 à 64 ans a expérimenté le cannabis, et le taux de fumeurs quotidien est très élevé dans l'Hexagone, le triple de celui du Portugal, qui applique une politique de dépénalisation depuis 2001. Et ailleurs dans le monde, quelles approches adopte-t-on, autres que la chasse aux dealers et aux consommateurs, et avec quels résultats? Donc, dans cet article, on nous parle de l'exemple des Pays-Bas, de l'exemple portugais, des États-Unis, où on nous parle de dépénalisation, par contre c'est une légalisation. On nous parle également de l'Uruguay dans cet article, et la France aussi, mais aussi l'Allemagne, la Belgique, l'Italie... voilà, donc je ne vais pas revenir en détail sur la France, on connaît un peu, on va parler un tout petit peu des Pays-Bas, et encore, on connaît aussi alors le Pays-Bas, le système des coffee shops, ces bars proposant des boissons non alcoolisées, mais aussi de la résine de cannabis ou de l'herbe, étant en réalité basé sur une tolérance de l'État hollandais et pas une légalisation. Le contrôle par l'État de la culture, la vente de la consommation de cannabis permet visiblement d'éviter que se développent des filières de trafiquants et de la délinquance comme en France, car en fin de compte, le taux de fumeurs de cannabis est un peu moins élevé aux Pays-Bas qu'en France. Le Portugal, une vraie politique de santé publique, nous dit-on en 2001, face au ravage de l'héroïne, le Portugal décide de décriminaliser l'usage des stupéfiants. Et depuis, des études menées sur plusieurs années ont permis d'évaluer les résultats de cette politique et des soins apportés aux usagers de drogue au lieu d'amendes et de peines de prison. L'usage de drogue n'a pas progressé. Il est très bas pour le cannabis, 2,4% de la population au lieu de 8,5% en France, et les homicides liés aux drogues ont baissé. Le nombre de personnes en soins pour addiction a par contre doublé. Ouais, mais c'est normal, si on veut soigner les gens, à un moment, En tout cas, alors, justement, le fait qu'il y ait cette dépénalisation et qu'il n'y ait plus de peur de l'arrestation, du flicage ou de l'incarcération, ça fait que, globalement, les gens ont moins peur d'aller demander de l'aide dans des structures de soins. Et du coup, c'est pas surprenant que le nombre de personnes qui veulent aller se faire soigner, qui veulent bénéficier de soins en addictologie, c'est pas étonnant que ce nombre de personnes ait doublé. Et c'est bon signe. Voilà. C'est pas au contraire mauvais signe. Ensuite, aux États-Unis, on nous dit la dépénalisation se généralise. Alors non, c'est la légalisation. Encore une fois, une confusion au niveau des termes employés par les médias, qui, encore une fois, voilà, souvent mélangent dépénalisation, légalisation, décriminalisation, libéralisation. Voilà, en gros, pour eux, ça veut tout dire. Alors, non, ça veut dire la même chose, mais c'est pas le cas. Et donc là, on nous dit que les États-Unis, longtemps partisans de la guerre à la drogue, a choisi de changer d'orientation il y a peu. Comme une vingtaine d'États américains, ils admettent la consommation du cannabis à des fins thérapeutiques. Tandis que l'Oregon, le Colorado, l'Alaska et Washington autorisent désormais une consommation à usage récréatif. Donc c'est une légalisation. Et ils nous disent toujours dépénalisation qui va de part avec un contrôle de l'État, la taxation des ventes et donc une hausse des recettes fiscales. Donc, c'est un terme qui n'est pas du tout acquis. L'État fédéral de l'Oregon, pour le seul mois de janvier 2015, a engrangé 2,5 millions d'euros, 3,5 millions de dollars de taxes sur la consommation, c'est-à-dire 15%, et sur les ventes, 2,9% de taxes. Cette approche permet d'assécher les trafics, de vérifier la qualité des stupéfiants vendus et de limiter la consommation, tout en offrant au gouvernement une rentrée fiscale inespérée. L'Uruguay, on nous parle de l'Uruguay. Chaque citoyen uruguayen majeur peut en acheter jusqu'à 40 grammes par mois, sous réserve d'inscription dans un registre. L'Uruguay est le premier pays au monde à libéraliser ainsi le cannabis et son président, José Mujica, estime que c'est une expérience qu'il faut observer, se réservant le droit de revenir en arrière. Mais le prix officiel du cannabis est aligné sur celui qui, hier encore, était pratiqué illégalement dans la rue. Dans la loi, il est possible de faire de l'autoproduction. On a le droit de cultiver jusqu'à 6 plants de cannabis par foyer, jusqu'à 99 plants dans un cannabis social club. Il y a aussi des entreprises privées qui peuvent en faire pousser, mais uniquement pour le vendre à l'État, chargé ensuite de le distribuer dans des officines, et notamment des pharmacies. Voilà. On nous parle aussi de l'Allemagne, de la Belgique, de l'Italie, où le cannabis n'est pas légalisé, mais partiellement dépénalisé, puisque les consommateurs peuvent en posséder et consommer sans être inquiétés s'ils ne dépassent pas certaines quantités. À quoi tient l'entêtement français face à la réalité de l'échec de sa politique de répression ? Les forces de police y consacrent énormément de temps, et l'État a plus de 500 millions d'euros annuels. Un quart des gardés à vue sont pour du cannabis en France. Un quart des gardés à vue dans toute la France le sont pour une possession de cannabis, ce qui est énorme. Et la hausse de la consommation, bah, elle continue et elle ne se dément pas. Et pour finir, on nous reparle de cet article, de ce rapport parlementaire de Madame Anne-Yvonne Le Dain qui avait expliqué les raisons de l'omerta française et les réponses positives que pourrait apporter, selon elle, une légalisation encadrée du cannabis. Mais pour l'heure, elle n'a pas été entendue, dit-elle. Et la consommation de cannabis et son trafic ont de beaux jours devant eux, avec leur cortège de problèmes de société qu'ils continueront d'engendrer fatalement. C'est pourquoi, au cirque et pas qu'au cirque, un certain nombre de canactivistes disent qu'aujourd'hui, les alliés objectifs des trafiquants, bah, c'est les politiques. Et ouais, malheureusement, ils font le jeu du trafic, c'est inévitable. Voilà, on va s'arrêter là pour Saint-Ouen. On a déjà dit beaucoup, peut-être qu'on en reparlera la semaine prochaine. Et avant de continuer, on va faire un petit aparté qui n'a rien à voir avec tout ce qui est répressif et tout. On va parler un peu de matériaux de construction et un site internet que je vous recommande. Vous pouvez aller jeter un œil qui s'appelle eti-construction.fr, eti-construction.fr. Et dans cet article, sur ce site internet, il y avait un article intéressant la semaine dernière. Un isolant en chambre 100% français. Voilà. J'aime bien parler de ça aussi parce que on ne parle pas que de cannabis pour le fumer et pour ses propriétés psychotropes. Hein. Il y a aussi d'autres possibilités d'appliquer. On peut utiliser le chanvre pour plein d'autres choses et pas que pour en fumer. Le panneau de chanvre, facile à poser. L'isolation aujourd'hui fait aujourd'hui partie des travaux de rénovation les plus souvent engagés, permettant de réduire les dépenses énergétiques. Il entre aussi dans le calcul de la performance énergétique. D'autant plus lorsqu'il affiche une composition naturelle. La solution Valna Chanvre, proposée par Valtech Isolation, va encore plus loin en se composant à 98% de chanvre haute particularité. Sa fabrication 100% française de la culture au produit fini. Cet isolant se présente en panneau semi-rigide d'une épaisseur pouvant varier de 45 à 200 mm. Son poids, lui, est de 35 kg par mètre cube. La pose en est simplifiée, rapide à mettre en œuvre sur toutes les surfaces. Et en façade, il vient s'intégrer à l'ossature bois pour participer à l'isolation du bâti. Semblable aux autres produits disponibles sur le marché, cette solution affiche des qualités hygrométriques élevées et une inertie faible permettant de limiter l'amplitude thermique observable lors de chaque saison. Pour plus d'efficacité, ce nouveau matériau peut également être associé à un autre isolant multicouche et réflecteur. Cette combinaison permet alors d'obtenir un renforcement de l'isolation thermique et acoustique, étanche à l'eau, à l'humidité et au vent. Présentant une performance énergétique très élevée, il permet enfin d'optimiser la surface perdue par rapport à un autre produit aux atouts équivalents. Il est également durable pour une tenue sur le long terme. Voilà, les isolants en chambre. Les isolants, parce qu'il n'y en a pas qu'un. Si vous êtes intéressé par tout ça, il y a également une boîte locale à mes yeux, tout simplement à mes yeux, là, tout à côté de Lyon, qui s'appelle Symbiose. S-I-N-B-I-O-S-E. Ils ont un site internet. Et Symbiose fabrique également des isolants en chambre. Voilà, de la laine de chambre, pouvant être appliquée dans vos murs pour une bonne isolation phonique. Voilà, Symbiose, le chanvre, on peut faire plein de trucs avec. Un cochon végétal, moi je vous dis le chanvre, un cochon végétal. Voilà, dernière petite info avant de repartir un petit coup en musique, une bonne nouvelle. Une nouvelle écologique pour une fois. La Colombie suspend les campagnes de fumigation des champs de drogue dans lemonde.fr du 10 mai. Le président Juan Manuel Santos a ordonné début mai donc de suspendre la pulvérisation de cet herbicide parce qu'il y avait des risques sanitaires et dans ce produit qui pulvérisait, il y avait du glyphosate. Et il se trouve que en fait, le glyphosate, c'est un des composants principaux du Roundup. Le Roundup, un produit Monsanto, un produit dégueulasse, polluant, qui pollue les nappes phréatiques, bref, une saloperie pas possible. Et les Américains, à coup de subventions, de milliards de dollars, ont financé des campagnes de fumigation en Amérique latine. Alors, je ne sais pas si vous vous en rappelez, si vous écoutez, si vous êtes fidèle à Cannabis Circus, il y a, je crois, 5 ou 6 ans, on avait parlé de plants de coca mutants qui avaient, en fait, s'étaient adaptés aux herbicides genre glyphosate et qui étaient devenus des pieds géants et qui produisaient un taux de rendement incroyable, en fait. L'aspersion de produits chimiques sur les plantes de coca avait déjà montré ses limites depuis longtemps. Mais bon, pourquoi est-ce qu'ils suspendent ces campagnes de pulvérisation? C'est tout simplement parce que l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, avait publié une recommandation en mois de mars et elle avait classé le glyphosate et donc le Roundup, enfin le glyphosate qui est l'un des composants du Roundup, donc avait classé le glyphosate comme probable cancérigène. Probable, sont gentils. Hein. Voilà, les recommandations et les études parvenues au ministère de la Santé colombien montrent clairement que oui, ce risque existe. Et donc, monsieur le président colombien a fini par dire, je veux être très clair, qu'on n'interprète pas cela comme un signe que nous allons baisser la garde dans la lutte contre le trafic de drogue. Ça provoque tellement de problèmes écologiques que finalement ils ont fini par suspendre ça. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Encore un petit peu de musique. Allez, on va s'écouter un petit Wu-Tang. Ça faisait longtemps. Allez, à tout de suite. Yeah, one two one two. It's the Wu creeping in the shadows. Shades, bomb grenades raid the airwaves, cats is rap pays. I glide like hovercrafts on the Everglades. Boom master with the faster blades.
track slasher. Manufacture rooms to microphones, bones fracture. Limited edition composition, spark friction, non-fiction. The calm bomb, keep your arm distance. Zero tolerance, dominant intelligence. Who original, true colors stem from the melanin. The most high, most try to get close by and overthrow I, but choke with their hopes up high. I circulate the tri-state and vibrate beyond the Richter. Fly sister flock when they spot this live nigga. The crowd seduce a black and third eye before I lose your verbal high. Leave styes in the eyes of Medusa. Top 10, probably like Cochran. It's Sharpton, narrow margin. Or your odds and darts to marksman. Murder rap, kill your soul like Roberta Flack. Words attack like a British bulldog. Observe the stats. Entity, a spark that surges through the undergrowth, overwhelming the populace from the entry. The Wu-Tang dynasty has emerged from this elite fleet. I was appointed to strike the vital nerve. Mouths tend to utter and speak empty words. Observe the magnetic attraction as we breathe. Seeds of MCs that these fake-ass industry niggas feed on. The chrome mic tend to squeeze off and spray. An array of shots that travel downwind. Disrespect my prolific pen as I ascend. The minds of the weak to rise and take power. I will towering over the land as we stand. Expanding our cream medallion to every grain of sand. Let the mind use the physical as planned. Check out my new suit. Darts blend, aim, take fire, pure destruction. Disappear from here, my year. Drop the stupid LPs everywhere. Falling out the sky, talk sniper. Rap spy, Capadonna hit the countryside. Poetry whirlpool, risen to collide. We produce article exception to the rule. We the black men that struck oil, the hard boil. Cats that made that Watergate thing go spoil. The heavy handed, locked down, standing with Cyrus. Woo pirates, sneak inside the club, low eyes. Nighttime crawlers, off the wallers, basketball gun crawlers, smoked out, throw both fists for 9-7, slang revving, put the best work in.
C'était le Wu-Tang Clan, Wu-Tang Forever, l'album pas nouveau, il date de 1997. Et le morceau, c'était, au cas où vous ne l'auriez pas, For Heaven's Sake. C'était, voilà. Il nous reste 6 minutes, on va se quitter bientôt. Alors, qu'est-ce que nous n'avons pas encore vu ? Ah, un article super intéressant dans contrepoint.org. Plonger chez les entrepreneurs de la drogue. Sur le dark web ou le deep web se développe un marché de la drogue très instructif pour la libéralisation des drogues. Plonger dans son monde, un article de Jacques Robert qui est assez intéressant. Par contre, je ne peux pas vous dire si, ne connaissant pas moi-même le dark web ou le dark net ou comment on dit, le deep web, je ne sais pas si tout ce qui est raconté est authentique, mais quelques connaissances m'ont expliqué que effectivement il se passait des choses et que quand on lit l'article, on reconnaît un peu tout ça. Alors c'est un article qui est assez long, on va pas pouvoir s'y atteler et s'intéresser, et en tout cas le traverser tout pour les 5 minutes qui nous restent. J'aime bien le début. Voilà. Il ne semble pas nécessaire d'expliquer en détail au lectorat de Contrepoint les multiples travers inhérents à la prohibition des drogues. D'autres en ont suffisamment parlé ici, ici ou encore ici. Parmi ces travers, un effet négatif important de la prohibition est qu'elle nourrit le crime organisé. L'économie légale et légitime ne pouvant répondre à la demande de drogue des individus, cela crée un vide, et ce vide a pendant longtemps été exclusivement rempli par le crime organisé, et c'est toujours le cas quand même aujourd'hui sur les 9 dixièmes de la surface de la planète. Les dealers se battent pour la monopolisation d'une certaine zone et usent de la violence pour régler leurs conflits. On n'a jamais vu Cronenbourg et Carlsberg s'attaquer à coups de Kalachnikov pour gagner des parts de marché pour la bière. Ainsi, la prohibition est donc une source d'insécurité manifeste. Un autre effet pervers notable se trouve au niveau des consommateurs de drogue. En effet, dans un régime prohibitionniste, ceux-ci ne peuvent connaître exactement le produit qu'ils achètent. Il n'y a pas de marque et encore moins de label indiquant les composants. Un utilisateur non satisfait ne peut porter plainte contre son dealer. À chaque achat, les consommateurs prennent le risque de consommer une drogue très différente de celle qu'ils souhaitent. Les conséquences peuvent être mortelles quand les dosages varient grandement d'une drogue à une autre. Un dosage sûr pour une drogue peut être un dosage mortel pour une autre. Les dealers n'ont que peu d'intérêt à fournir un produit de qualité. Leurs clients ne pourront pas porter plainte contre eux et s'il s'avère que le produit ne correspond pas à la description. Malgré les multiples effets pervers de la prohibition des drogues qui sont aujourd'hui largement documentés et reconnus au-delà des cercles libéraux, la prohibition continue. Largement documenté et reconnu, sauf à l'UMP, j'ai envie de dire, et au PS. En France, le débat public est très peu présent sur ce sujet. Les politiciens n'osent pas afficher en public contre ce régime répressif, n'osent pas s'afficher en public contre ce régime répressif, même si certains admettent ses failles en privé. Alors que faire ? Faut-il patiemment attendre que l'État admette son erreur et relaxe enfin sa politique des stupéfiants après moult commissions et débats enflammés au Parlement ? En attendant le grand soir de la fin de la prohibition, des solutions alternatives se développent spontanément grâce à ce formidable outil qu'est Internet. Tout d'abord pour les utilisateurs, Internet a permis le développement de communautés où ils échangent des informations riches sur les drogues, leurs effets primaires et secondaires, le dosage adéquat, les manières de réduire la toxicité, les mélanges possibles ou à éviter, la fréquence maximale d'utilisation recommandée, etc. Des sites centralisent ces informations, comme le site HeroWid, E-R-O-W-I-D, largement reconnu par la communauté des utilisateurs pour ses informations fiables. Cette encyclopédie des drogues, en permettant de connaître le dosage et autres informations d'un très grand nombre de stupéfiants, a probablement sauvé la vie de milliers de personnes à travers le monde. Sa popularité est telle qu'en février, le site a remporté un prix de $82,765 avec une compétition de vote organisée par Reddit. Là, je vous avoue, je ne sais pas trop de quoi on parle. Mais la plus grande innovation de ces dernières années, qui permet de rendre la prohibition des drogues non pertinente, se trouve être les marchés noirs du Darknet. Le Darknet, aussi appelé Deep Web, est une partie d'Internet souterraine, cachée des moteurs de recherche et seulement accessible à l'aide du navigateur Tor, dont H16 a récemment fait la promotion dans son article sur les outils qui permettent dès aujourd'hui d'éviter la surveillance de l'État. Outre qu'il permet de naviguer sur Internet, sur l'Internet classique sans laisser de traces, Tor permet d'accéder à une variété de sites appelés Onions, qui ne peuvent être facilement découverts et attaqués par les services de l'État. Parmi ces Onions, on retrouve des marchés noirs libres, dont Feu Silk Road est le plus connu. Le site a chuté suite à l'intervention des autorités américaines, mais de nombreux nouveaux marchés ont pris sa suite. Vous pouvez retrouver ici un article sur le procès de Ross Ulbricht, créateur de Silk Road, et ses différents enjeux qui vont au-delà des sujets des drogues. Ces marchés n'ont rien de moins qu'une révolution dans l'organisation de la distribution des drogues. Anonymes et utilisant la monnaie d'échange, la monnaie électronique Bitcoin, ils permettent à offre et demande de drogue de se retrouver et d'échanger librement et pacifiquement en ligne. Leur première vertu, c'est qu'ils permettent de retirer de la rue les trafics de drogue, les consommateurs pouvant commander en ligne et recevoir chez eux les produits qu'ils souhaitent. Ainsi, ils permettent de réduire les combats entre criminels qui se partagent les marchés de la drogue. À défaut de pouvoir se faire la guerre avec des armes à feu, les dealers du Darknet ont d'autre choix que de se battre en offrant des produits qui plaisent aux consommateurs. Et dans quelques rares cas, ces dealers tentent de s'attaquer en se piratant respectivement L'avantage est ici net pour l'ensemble de la population en termes de baisse de l'insécurité. Plus le trafic de drogue aura lieu en ligne, moins les dealers et organisations criminelles auront l'occasion de s'agresser avec violence sur la place publique et plus la société s'en trouvera pacifiée. Voilà un peu le début de cet article de Contrepoint que je vais malheureusement pas pouvoir continuer à vous relater jusqu'à la fin puisqu'il est 22h et que maintenant c'est Chasseur de son. Mais je vous donne quand même l'adresse du site internet https://www.contrepoint.org. Et vous, si ça vous intéresse, vous tapez sur leur site Plongée chez les entrepreneurs de la drogue ou drogue ou entrepreneurs de la drogue et vous trouverez cet article écrit par Jacques Robert qui, je trouve, est assez intéressant. On va se quitter là-dessus. Avant de se quitter définitivement, je vous rappelle que cette émission est organisée et animée par les bénévoles du CIRC, le collectif d'information et de recherche cannabique et pas cannabitique. Comme on pouvait le lire dans les médias lyonnais suite et avant la marche mondiale du cannabis, donc le collectif d'information de recherche cannabique de Lyon, voilà, que vous pouvez joindre au 06 11 53 10 07. Vous pouvez nous écrire par voie postale Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne CEDEX. Nous avons également un site internet intéressant avec plein d'infos www.cirque-lyon.fr, une adresse mail cirque-lyon@no-log.org. Tous les tirets sont les tirets du milieu et voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, vendredi 22 mai, si vous voulez rencontrer le cirque, allez passer une bonne soirée Reggae Dub Sound System avec Breda Sound System à la salle des fêtes de Caluire à partir de 22h. Si vous êtes membre, ça vous coûtera 0€. Si vous n'êtes pas membre, il faudra payer votre adhésion, ça vous coûtera 2€, donc c'est pas cher. Voilà. Et c'est tout. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci d'être fidèle à Cannabis Circus et à Chasseur de Son. Et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et à la semaine prochaine. Au revoir.